c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis le stade de Chamiers dans le Périgord, en banlieue de Périgueux. RLP Business, votre émission sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'activité économique du département et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler santé mentale. La santé mentale dans ce monde de fous, nous en entendons tous parler. Pour ceci, nous recevons Angélique Louchard de la SPST. Angélique, bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour. Et puis surtout, aujourd'hui, cette émission sera menée de main de maître par Carolina Impizirelli, je crois.
Alors, dans l'autre sens, Impizirelli, mais c'est pas mal.
Eh bien, je confonds avec un guitariste fameux, mais voilà. Donc, tu poseras beaucoup les questions. Nous y allons, c'est après la chronique de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
Les actualités.
Actualité économique, elle va être extrêmement bref. Je ne vous en fais plus depuis quelques semaines car elles sont déprimantes, mais ça tombe bien avec la thématique du jour. Le nombre de défaillances d'entreprises pourrait atteindre 69 000 fin 2025 avec environ 245 000 emplois menacés. Nous avions vu avec divers syndicalistes et autres du Périgord que la saison touristique a été compliquée. Nous avons vu avec Monsieur Frouin du MEDEF qu'il y a un peu moins de fermetures d'entreprises en dehors que dans le reste de la France. Néanmoins, la pression s'accentue. On parle de santé mentale. Mon soutien psy est également présent dans son équivalent au niveau des entrepreneurs. La SPST, la santé au travail, la médecine du travail, vient de mettre en place un dispositif d'accompagnement psychologique des artisans, des indépendants et des chefs d'entreprise. Madame Louchard, est-ce que vous sentez, vous, l'utilité de cette... Est-ce que vraiment ce que j'ai dit, est-ce que c'est vraiment la catastrophe? Est-ce que les chefs d'entreprise ont besoin d'accompagnement psy?
Alors oui, je pense qu'il y a, okay. Il y a un vrai besoin d'un soutien psychologique. Alors bon, moi c'est vrai que j'ai une, la partie des dirigeants que je vois, forcément c'est ceux qui sont en difficulté. Donc j'ai pas une vue vraiment d'ensemble, mais je pense que c'est important même en termes de prévention.
Est-ce qu'il y en a plus qu'avant?
Je pense que oui, parce que sur les retours que je peux avoir au niveau des dirigeants, il y a aussi un contexte économique et une difficulté au niveau des salariés qui œuvrent dans ce sens-là.
Très bien. Écoutez, c'est Angélique Louchard, c'est l'invité de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
Et alors, donc, pour commencer, Angélique, c'est quoi exactement un service de prévention et de santé au travail et pourquoi est-ce important?
Alors, c'est un service qui va permettre donc, le suivi de santé des salariés et maintenant des dirigeants d'entreprise. On va aussi intervenir au niveau de la prévention des risques professionnels de manière générale pour les salariés et de la prévention de la désinsertion professionnelle qui est un axe vraiment stratégique depuis la loi du 2 août 2021, c'est-à-dire le risque de perte d'emploi lié à un état de santé impactant le poste de travail.
Et alors, quels sont les signaux, vous, que vous observez chez les dirigeants de façon générale quand ils viennent vous consulter, mais qu'eux ont tendance à ne pas voir?
Beaucoup de fatigue, parfois du déni sur leur état de santé tout de même. On s'aperçoit qu'ils ont des difficultés, des troubles du sommeil beaucoup de stress, d'irritabilité, mais... comme ils doivent tenir pour leur entreprise, voilà, il y a une forme de déni un petit peu. Et donc, c'est les aider à prendre conscience de leur état de santé, notamment psychologique, et des aides qu'on peut leur proposer.
Et alors justement, en parlant d'aide, qu'est-ce que vous apportez comme aide à un artisan, par exemple, qui est à deux doigts de l'usure physique?
Alors, on leur apporte du soutien, de l'écoute. On essaye de rompre l'isolement. Qui est une vraie problématique
au
niveau des dirigeants.
On ne le dira jamais assez, ça, mais l'indépendant et le dirigeant de petites structures est très souvent extrêmement isolé.
Tout à fait. Et le fait de pouvoir échanger avec eux, les rappeler aussi régulièrement, prendre de leurs nouvelles, ne serait-ce que ça impacte aussi favorablement leur état de santé. Et puis toute la prise en charge au niveau de la psychologue du travail ou d'autres structures avec lesquelles on travaille pour pouvoir les aider à aller mieux, en fait.
Donc pour les salariés, c'est obligatoire hein, d'avoir une visite médicale. Pour les chefs d'entreprise, ça ne l'est pas. C'est sur volontariat qu'ils viennent vous voir. Depuis 2021, ce système a été mis en place suite au post-Covid, où ça a été une période peut-être un petit peu difficile psychologiquement pour eux. Comment est-ce qu'ils appréhendent le fait de venir se confier à vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur ce secteur en Dordogne qui arrivent à venir vous voir et mettre un petit peu leur ego de côté ? Parce que quand on est dirigeant, j'imagine que c'est un petit peu compliqué.
Oui, c'est très compliqué même. L'idée, c'est vraiment de les inciter à venir. Il faut aussi aller les chercher. Donc, informer du dispositif, informer de ce qu'on peut faire. Parfois aussi, les témoignages d'autres dirigeants permettent de leur donner envie aussi d'être aidés, puisque c'est vrai que c'est toujours des mains tendues, mais les mains ne sont pas toujours saisies non plus, dans le sens où il y a une représentation sociale forte du dirigeant, où voilà, il doit tenir, il doit être fort, et c'est compliqué pour eux, à un moment donné, que de demander de l'aide. Et souvent, quand ils le font, c'est que la situation est vraiment dégradée.
On a tous bien commencé à comprendre qu'aller vendre sur les marchés, ou avoir son petit restaurant, ou sa petite épicerie, c'est pas forcément de tout repos, ça commence à rentrer dans la compréhension populaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, qu'est-ce que vous avez mis en place et comment vous avez fait en sorte que ces gens savent qu'il y a un dispositif chez vous ?
Alors, le dispositif s'appelle Capital Santé Dirigeant. Ils le savent parce que donc on a beaucoup de communication autour de ça, sur notre site, sur des plaquettes, mais aussi parce que je vais à la rencontre des dirigeants d'entreprise, au niveau des organisations patronales, des chambres consulaires, dans tous les petits clubs d'entreprise qu'il peut y avoir aussi en Dordogne, pour aller les informer déjà de l'existence de ce dispositif.
Vous allez faire de la com dans tous les réseautages, en fait.
Voilà. D'accord. Partout où on peut trouver des dirigeants, on va essayer de s'insérer pour pouvoir communiquer et informer sur ce dispositif.
Et alors, est-ce que vous avez un exemple d'une intervention que vous auriez faite qui aurait eu un impact, qui aurait peut-être sauvé une petite entreprise ? Est-ce que vous avez un exemple en tête que vous pourriez nous donner ?
Oui, alors il y en a plusieurs. Hein. Alors, soit au niveau plutôt donc sur la santé mentale des personnes qui allaient vraiment très mal, qui étaient dans le déni de l'épuisement professionnel et qui commençaient à avoir même des symptômes physiques, des problématiques de santé qui venaient se greffer. Et donc le fait de prendre en charge, d'orienter vers le médecin traitant, le médecin du travail, parfois que le médecin traitant propose aussi un traitement, un suivi aussi psychologique qu'on va mettre en place, plus à côté aussi prendre en compte la santé économique de l'entreprise via la cellule de prévention du tribunal de commerce ou d'autres associations qui aident les dirigeants à prendre ce petit pas de côté en fait pour vraiment arriver à prendre conscience que y a peut-être des choses à faire pour que la situation s'améliore. C'est vrai qu'ils ont la tête dans le guidon, ils travaillent énormément d'heures. Et donc c'est au fur et à mesure du suivi que je m'aperçois quand je les recontacte. Alors il y a des suivis qui peuvent prendre jusqu'à un an, c'est assez long. Où ils peuvent me dire je reprends du plaisir à m'occuper de mon entreprise, ça va mieux, la situation financière s'est stabilisée, je dors un peu mieux, ou j'ai entamé une démarche avec un thérapeute. J'essaye de prendre un peu plus soin de moi pour justement pouvoir avancer en fait. Et ça, c'est quand même, on arrive à avoir des bons résultats.
Et alors moi, j'avais, de par l'expérience passée dans un syndicat patronal, j'avais pour habitude de consulter et d'accompagner des entreprises qui peinaient à, par exemple, à trouver des dates et des médecins ou infirmiers disponibles pour faire suivre leurs salariés. Qu'en est-il, puisque j'imagine que ce nom n'a pas évolué depuis, comment ça se passe maintenant que les chefs d'entreprise doivent eux aussi se faire suivre, même si c'est, je le répète, du volontariat, comment ça se passe pour eux ?
Alors, bon, c'est vrai qu'on manque de temps médical, comme un peu partout, au niveau du nombre de médecins du travail. Maintenant, en fait, sur l'accompagnement des dirigeants, alors autant les visites médicales des salariés, c'est des visites qui sont obligatoires, et le dirigeant, c'est une visite sur volontariat.
Mais lorsqu'il n'est pas salarié, parce que s'il est salarié, il est sous les mêmes obligations que
les
autres, tout à fait.
Exactement. On va parler des travailleurs non salariés, effectivement.
Et effectivement, on parle de dirigeants, mais on oublie qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs.
Oui.
Donc ce sont des gens qui font moins de 30 000, 40 000 de chiffre d'affaires par an. Donc ça reste
reste quasiment assimilable à des salariés, parce que dans l'inconscient collectif, dirigeants, ce sont des choses, c'est le 440, mais non, là on est dans un département rural, la majorité des sociétés, des entreprises de Dordogne, du Périgord, sont des sociétés entre 1 et 5 personnes. Entre une et cinq personnes.
Oui, tout à fait.
Et c'est aussi à ces gens-là que nous adressons, en fait. Ce sont les salariés. Parce qu'ils ont moins de protection sociale que les autres, et donc peut-être qu'ils ont plus besoin.
Alors, les dirigeants qui nous sollicitent ne vont pas forcément passer par une visite médicale avec le médecin du travail. En fait, dans le dispositif Capital Santé Dirigeant, il y a cette possibilité-là. Mais parfois, c'est aller voir son médecin traitant. Parfois, c'est la psychologue du travail ou une autre psychologue formée sur d'autres pratiques. Donc, c'est pas... Dans l'ensemble des dirigeants que je suis, ils ne vont pas tous voir un médecin du travail. Donc, ça dépend de la problématique. Parfois, c'est des problématiques physiques, notamment les travailleurs non salariés qui sont seuls dans leur entreprise, qui ne sont pas employeurs, qui n'ont pas de salariés. On est sur des problématiques physiques qui remettent en question la pérennité de l'entreprise. Et là, oui, il y a le médecin du travail dans la boucle.
Ben oui, et Carolina, tu m'as dit quelque chose qui me fait réagir là. Donc toi, tu as vu dernièrement qu'il y avait un déficit de ressources médicales. Les employeurs avaient du mal à trouver les ressources médicales pour leurs employés.
Oui, tout à fait. Et, en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'ils ont une obligation pour leurs salariés consulter. Mais au niveau de la médecine du travail, c'est très compliqué d'obtenir des rendez-vous. Il y a une pénurie de médecins et même de personnes qui seraient habilitées à les dispenser. Donc, c'est très compliqué.
La désertification médicale ne concerne pas que les particuliers. En fait, elle concerne aussi le monde professionnel.
Tout à fait. Et puis on a aussi, on a quand même les infirmières aussi en santé au travail qui peuvent faire des visites en fonction du profil du salarié ou de la problématique. C'est pas forcément automatiquement vers le médecin du travail. Donc on essaye de pallier aussi un peu à ça avec les infirmières en santé au travail. Mais oui, c'est de toute façon parfois difficile.
Est-ce que quand ils viennent vous voir, c'est pas déjà un peu trop tard? Et surtout, moi, je me mets à la place d'un artisan qui, par exemple, n'aurait pas de salarié et qui est le seul à pouvoir ramener du chiffre et à faire tourner sa boîte. Si demain, parce qu'il y en a plein qui, je pense, ont conscience qu'ils ne vont pas bien, que ce soit moralement ou physiquement, mais qui n'ont pas le choix. Comment ça se passe pour eux? Parce que les suivre, c'est bien, mais concrètement, dans la vraie vie, comment font-ils?
Alors, dans certaines situations, effectivement, quand la situation économique même de l'entreprise est trop dégradée suite à une problématique de santé du dirigeant, parfois, il y a des dirigeants qui sont obligés de cesser leur activité. Donc, on essaye de voir aussi avec la cellule prévention du tribunal de commerce ce qui est possible de faire. Mais parfois, si la situation est trop dégradée...
Et oui, d'ailleurs, dans la restauration et dans le bâtiment, il peut y avoir de l'usure corporelle aussi.
Oui, tout à fait. Oui. J'ai pas mal de dirigeants, effectivement, dans le bâtiment... où il y a des problématiques de santé physique. Et là, quand ils sont seuls et qu'ils n'emploient pas de salariés, si ils ont une problématique physique et moi j'avais un carreleur qui pouvait plus s'agenouiller, un couvreur qui peut plus monter sur les toits pour des problématiques physiques, forcément là il faut repenser
le travail. J'ai rencontré des gens qui avaient passé leur temps, leur vie dans la grande distribution à décharger et recharger des camions, ils n'arrivaient plus à tenir un sac au niveau de la main. Il y avait de l'usure. Donc effectivement, là, il faut s'occuper de... Ça devient urgent, quoi. Et donc nous avons besoin d'un soutien médical dans le monde professionnel.
Tout à fait.
Et alors moi, j'aurais aimé vous poser des questions un petit peu par rapport aux préjugés éventuels que les chefs d'entreprise pourraient avoir par rapport au rôle que vous jouez, afin que vous puissiez les déconstruire, évidemment. Donc si vous êtes OK, on peut y aller.
Déconstruisons pas trop,
Beaucoup de chefs d'entreprise pensent que la SPST, c'est juste une visite médicale obligatoire. Qu'en dites-vous?
Oui, alors c'est effectivement ce qu'ils peuvent en penser. Maintenant, on œuvre vraiment pour essayer de faire comprendre que derrière la cotisation au service de prévention et de santé au travail, il y a vraiment toute une équipe. C'est-à-dire qu'il y a le médecin du travail, mais il y a aussi l'infirmière, l'ergonome, la psychologue du travail. On a des préventeurs, en fait, sur la prévention des risques professionnels. Donc c'est aussi tout cet accompagnement-là qu'on propose et ils peuvent solliciter. Même l'ergonome, par exemple, un chef d'entreprise qui fait énormément de papiers administratifs, il peut avoir des problèmes de dos et puis avoir besoin d'une chaise ergonomique, etc. Mais c'est vrai que comme ils ne pensent pas forcément à eux, ils peuvent plus sur leur entreprise, ce n'est pas des choses qui leur viennent au premier abord.
Alors, nous, on avait eu le cas d'une entreprise, pour ne pas la citer, CWD, dans le Nord d'Ordogne, qui avait fait appel à un ergonome de la médecine du travail pour les salariés qui travaillaient à l'atelier. Pour
ergothérapeute, ergonome, c'est pareil? Bon, d'accord.
On va dire que oui.
On va dire que c'est pour améliorer la faisabilité des choses.
C'est des ergonomes qu'on a.
D'accord, ok.
Alors, deuxième préjugé, certains artisans disent « Moi, j'ai pas le temps pour ces trucs-là, je bosse, c'est tout. » Que leur répondez-vous?
Alors oui, c'est vrai, ça je l'entends beaucoup. Ne serait-ce même que pour pouvoir convenir d'un entretien téléphonique pour échanger avec eux. D'ailleurs, je fais beaucoup par téléphone parce que alors, si on prend le temps de déplacement, c'est même pas la peine, ils viendront pas. Voilà, c'est... Ils ont du mal à se rendre disponibles parce que voilà, ils sont dans leur entreprise, mais je leur réponds que ce temps-là, c'est du temps qui va être gagné par la suite. Parce que s'ils ne prennent pas soin de leur santé, s'ils ne font pas ces démarches-là, le jour où la santé va trop se dégrader, ils n'y seront même plus dans leur entreprise. Donc voilà, c'est vraiment...
Tiens d'ailleurs, puisque nous en sommes au niveau des préjugés et des constructions, est-ce que les dirigeants qui viennent vous voir dans le cadre de Mon Soutien Psy ou autre, ce sont majoritairement des hommes ou des femmes ou c'est partagé?
Alors, on a un outil d'évaluation de la santé qui est utilisé, qui nous permet quand même de tracer. On a 48% de femmes et 51% d'hommes.
Enfin, 48,9%. Parce qu'on s'imagine tous que ce sont des grands guerriers barbus qui viennent. Non, pas forcément.
Non, on a vraiment moitié-moitié.
D'accord.
Et ça représente à peu près combien d'entreprises, enfin combien de dirigeants juste depuis 2021, depuis que vous avez mis votre...
Alors donc 1500 évaluations de la santé via cet outil-là qu'on propose aux dirigeants et en accompagnement je suis à 135 dirigeants à peu près.
D'accord, très bien.
Alors... Et grosso modo la sociologie des gens que vous accompagnez, c'est quelle taille, quel âge, quel type?
Alors on a majoritairement sur la tranche d'âge 45-55 ans.
D'accord.
C'est plutôt ce qui est représenté.
Donc en pré-retraite, mais pas en maturité et en début de pré-retraite, on va
c'est
dire.
C'est ça, voilà. On sent que voilà, il y a aussi de l'épuisement hein, pour tenir sur du long terme l'entreprise avec le contexte qu'on connaît aussi. C'est plutôt cette tranche d'âge-là. Après, c'est assez varié dans le type d'entreprise. Ça peut être pharmacie, ça peut être notaire, ça peut être artisan, commerçant, diagnostiqueur immobilier, carrossier, enfin voilà,
c'est assez hétérogène.
Oui.
D'accord. Alors, il demeure une croyance assez tenace qui dirait que faire appel à la SPST, c'est se mettre de la paperasse. Qu'en pensez-vous?
Alors, peut-être en tant que dirigeant pour, effectivement, les salariés, encore que maintenant, avec le portail adhérent, enfin voilà, on simplifie aussi les démarches, donc... Pour moi, pas tant que ça, en tout cas de mon point de vue. Et puis après, pour le dirigeant qui souhaite être suivi pour lui, il n'y a absolument rien à faire, mis à part me contacter, en fait.
D'accord. Et alors, j'ai encore deux préjugés, Angélique. La SPST, c'est surtout là pour contrôler ou sanctionner. Est-ce que ça, vous l'entendez?
Oui, on peut l'entendre, mais non, on n'est pas du tout dans l'inspection du travail.
Elle vient d'où, cette crainte, en fait? C'est que...
Eh bien, je ne sais même pas.
Je pense que pour les salariés, il y a quand même il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Quand ils vont voir le médecin, ils peuvent dire des choses, on me fait du mal, et médecin répercute,
et
c'est
et
ça.
Même au niveau de l'environnement de travail, il y a quand même des obligations, je crois, au niveau de l'employeur.
Alors, il y a des obligations, mais nous, d'accord. On n'est pas l'inspection du travail, donc on ne va jamais obliger un employeur à respecter ces obligations.
Ce sont des conseils.
S'ils font n'importe quoi, vous allez faire des remontées quand même, je suppose. Enfin, ça paraît très logique, si vous arrivez dans un endroit...
Alors, on va faire des recommandations, des préconisations.
D'accord.
On va les conseiller, les informer, mais on ne va pas sanctionner du tout.
Vous arrivez chez Orange, il y a eu 20 suicides ce mois-ci, vous allez forcément peut-être faire une alerte quelque part. Je ne sais pas si c'est un exemple.
En fait, on va vraiment leur dire, on va les alerter sur le fait que la situation est inquiétante et qu'il y a des choses à mettre en place. D'accord. Mais maintenant, après, toute la partie juridique, nous, on n'a pas cette prérogative-là.
Du genre, Stéphane, si c'était des suicides par la fenêtre, mettre des baies vitrées qui ne s'ouvrent pas, par exemple.
Oui, il faut supprimer les armes et les cordes aussi. On va interdire les cordes.
Enfin, non, après, il y a peut-être derrière ça un petit peu cette notion d'inaptitude. Parfois, le médecin a la possibilité, effectivement, en fonction de l'état de santé du salarié, de mettre une inaptitude. Et alors, c'est vrai que pour certaines entreprises, moi qui accompagne du coup de l'autre côté les dirigeants, sur des petites entreprises avec un salarié mi-inapte, pour peu qu'il ait beaucoup d'ancienneté, que ce soit un accident du travail, une maladie professionnelle, ça, c'est vrai que ça a des conséquences parfois financières compliquées.
C'est terrible parce que un salarié peut être déclaré inapte pour ce poste dans cette entreprise, mais est en capacité de pouvoir faire la même chose dans une entreprise concurrente.
Alors ça, on va peut-être le voir sur la partie plutôt psychologique, épuisement pro ou risques psychosociaux. Sur la partie physique, si la problématique physique elle n'est plus possible sur un poste dans un métier, assez rarement quand même on va retrouver un salarié sur le même poste, puisqu'il a ses problématiques physiques qui l'en empêchent. Donc, mais sur la partie RPS peut-être.
Enfin, on va quand même le dire, la médecine du travail protège. Hein, elle n'est quand même pas là pour pénaliser, bien elle sûr. Protège. Moi, j'ai un cas, notamment dans un restaurant où on demandait à une des personnes de nettoyer en permanence toutes les vitres, les mains à l'épaule. Il a réussi à obtenir via le médecin et on s'est rendu compte qu'il y avait du harcèlement derrière, en fait. Donc, c'est aussi une manière de protéger les gens.
Bien sûr.
Et il faut quand même le dire. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est ces gens qui viennent vous voir, quelles sont les raisons de leur épuisement? Est-ce que, nous, on parle souvent ici de surrégulation, et on parle souvent ici aussi de pression fiscale. Est-ce que ce sont des choses que vous entendez, vous?
Alors, oui, je peux vous citer les 6 facteurs de stress, les 6 premiers grands facteurs de stress qui sont identifiés donc, via les évaluations qu'on propose aux dirigeants. Donc sur les 1500 évaluations, quoique là, non, sur 791 évaluations côté Dordogne, puisque nous, on couvre la Corrèze à la Dordogne.
Oui,
sur les
vrai.
791 côté Dordogne, donc le premier, c'est la surcharge de travail. Le deuxième, c'est l'absence du personnel, tout ce qui va être absentéisme.
Il faut qu'ils compensent par eux-mêmes, c'est ça?
Complètement. Voilà. Ensuite, il y a la pression fiscale, la baisse de l'activité commerciale, les problèmes de trésorerie et le manque de reconnaissance du dirigeant. Voilà les 6 grands facteurs de stress.
Moi, j'en vois déjà 3 qui se rejoignent. La pression fiscale, la baisse d'activité, les problèmes de trésorerie, c'est l'argent.
Tout à fait.
Très clairement, quand on dirige une activité et que les sous ne suivent pas, il y a des répercussions au niveau psy, au niveau physiologique.
Déjà, ils ne dorment pas la nuit, ils pensent aux solutions qui vont être possibles. Enfin, voilà. Et puis, ça, le stress aussi, qui fait augmenter l'hormone du cortisol dans le corps. Tout ça, ça a un impact sur le corps.
En quoi vous diriez, Angélique, que la prévention, c'est un levier économique et pas seulement médical, justement, pour rebondir sur ce que vous dites?
À partir du moment où on va faire de la prévention, on va éviter une dégradation de l'état de santé psychique ou de l'état de santé physique. Donc, on va éviter des arrêts de travail, des accidents du travail, des maladies professionnelles, l'usure, la pénibilité, tous ces facteurs-là de risque de désinsertion professionnelle, on va les éviter au travers d'une prévention, c'est-à-dire de mettre en place des actions le plus en amont possible, avant la dégradation de l'état de santé, pour limiter l'impact en fait sur le corps et sur l'esprit quand on est sur le côté santé mentale.
Donc intrinsèquement, effectivement, un dirigeant en bonne santé, c'est une entreprise qui est également en bonne santé.
Oui.
Enfin, dans la plupart des cas, parce que malheureusement, ça ne suffit pas toujours.
Ah oui. On a des exemples. Là, il y a une chaîne de restaurants très fameuse. Avant, il y en avait un à Trélissac et un à Marsac. Maintenant, il n'y en a plus qu'un à Marsac. Il y en a un des deux où tu étais très, très mal reçu. Il y avait une mauvaise ambiance. Les gens n'étaient pas forcément très bien traités. Eh bien, ils ont fermé. Et tu as l'autre qui propose exactement les mêmes produits, les mêmes offres. Tout le monde a le sourire et tu sens que les gens sont bien traités, ils sont contents d'y travailler. Eh bien, on y fait la queue. Donc, ça vient d'en haut et une bonne ambiance a des répercussions sur l'activité de la société. Ça, c'est l'entreprise.
Oui,
c'est totalement. C'est vrai que l'environnement dans lequel un salarié évolue.
Moi, je rentre dans un magasin où tout le monde fait la tête et puis ils sont traités comme n'importe quoi. J'ai pas envie d'y retourner.
Ouais,
donc, ça, c'est clair et net. Hein. Ça se sent en plus. Hein.
Oui.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner, un conseil immédiat et simple que vous pourriez donner à un chef d'entreprise à appliquer dès demain pour prendre soin de lui?
Je pense que surtout, ce qui va être important, c'est de ne pas hésiter déjà à solliciter. Même si voilà, il y a des petits signaux d'alerte, de ne pas attendre que la situation soit vraiment dégradée pour nous solliciter. Donc ça, c'est important, encore une fois, d'être le plus possible dans la prévention primaire et pas attendre que vraiment la situation soit trop dégradée. Et puis d'utiliser notre outil d'évaluation parce que ça permet vraiment d'identifier les facteurs de stress et les facteurs de ressources qu'on peut avoir. Et parfois, quand on ne peut pas agir sur les facteurs de stress, on va essayer d'augmenter le facteur de ressources, c'est-à-dire de facteurs de bien-être, en fait, au niveau de l'entreprise.
Oui, il y a un outil d'évaluation en ligne. Je l'avais testé lors de la conférence de presse de septembre, là. On peut y aller, c'est gratuit. Vous répondez à quelques questions et vous allez voir si l'impression que vous avez de vous-même, elle est corroborée par les résultats ou pas. Généralement, elle y est. C'est un outil qu'on trouve sur le site de la SPST d'Ordonne-Corrèze.
Donc, dès demain, ils peuvent déjà faire une première évaluation.
Ils peuvent y aller maintenant.
Et même si ça va bien.
Oui, tout à fait. Et est-ce que vous aimeriez, vous, que les dirigeants qui nous écoutent, j'imagine qu'ils sont extrêmement nombreux...
Les dirigeants indépendants, les gens qui bossent pour eux,
exactement,
en fait.
Exactement, hein, oui, voilà. Je dis les dirigeants, mais oui. C'est tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent absolument de la SPST? Est-ce qu'il y a...
De savoir que maintenant, ils ne sont plus seuls, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Parce qu'ils sont pendant longtemps sentis isolés. Et au moins, aujourd'hui, il y a ce dispositif-là qui existe. Et il faut vraiment ne pas hésiter à solliciter.
Oui, parce que ce sont des gens, en fait, qui ont moins d'acquis sociaux que les autres. Très souvent, d'ailleurs, malheureusement, l'ubérisation de la société a fait beaucoup de gens se sont mis à leur compte pour créer leur propre emploi. Ou alors, ils n'ont pas envie qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Donc, ils vont devenir artisans à leur compte, ce genre de choses. Mais ils ont moins de sécu, ils ont moins de retraite.
Pas de chômage,
j'ai une protection sociale qui est plus petite. Et par contre, ce qui me fait, je ne dis pas que ça me fait plaisir, parce que ça, mais bon, ce qui est intéressant à regarder, ce qui est intéressant à constater, c'est que on a de plus en plus de facilité à parler de souffrance mentale, à parler de souffrance psychique, alors que c'était honteux il y a quelque temps. Et là, maintenant, on arrive à voir, moi j'ai des réunions parfois, tel ou tel endroit, et les gens vont dire, oui, ben voilà, en ce moment, il y a une pression mentale qui est très très forte, on est en souffrance, et les gens osent le dire, et c'est bien de s'en occuper.
Oui, oui, oui.
Nous, on avait tendance, là où je travaillais avant, on avait constaté... Allez,
dis-le que tu étais au MEDEF, hein. Vas-y, dis-le, voilà.
Je le balance. Donc, j'étais au MEDEF d'Ordonne, qui est d'ailleurs l'un des plus grands MEDEF de France.
MEDEF d'Ordonne, si tu nous écoutes, bonjour, voilà.
Et donc, on avait quand même 1200 adhérents. Et donc, l'isolement du dirigeant, c'est quelque chose de très compliqué. Et nous, on avait tendance à...
En fait, tiens, d'ailleurs, MEDEF d'Ordonne, ce n'était pas le 440. Hein, c'est beaucoup de petites boîtes, hein, tu confirmes.
Ah oui, tout à fait.
Voilà,
oui.
Donc c'est des... Voilà,
okay, plus
c'est des gens du peuple, quoi.
Plus de 60% des entreprises sont des TPE, PME. Là,
exactement, ce que vous dites tout à l'heure. Voilà.
Et donc, si vous voulez, on avait le fait de les réunir, parce que ça a aussi un impact sur eux. C'est que c'est comme quand on... L'exemple qu'on avait tendance à donner, c'est que c'est comme quand on a la grippe, le fait de côtoyer du monde, bah, ça soigne pas, mais ça soulage de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et c'est vrai que c'est très... on ne se rend pas compte, pardon, j'arrête de bégayer, on ne se rend pas compte à quel point le dirigeant peut être seul et toutes les responsabilités que ça implique de gérer une entreprise, de pouvoir la faire tourner et de traverser, surtout parce qu'il n'y a vraiment rien de stable et de linéaire dans l'entrepreneuriat, de traverser toutes ces périodes qui peuvent être à la fois fastes et très compliqué, donc c'est génial que vous puissiez mettre ça en place pour eux.
Entrepreneur, il y a forcément un pourcentage d'échecs et c'est aussi être capable mentalement d'assumer ce parcours. Hein. Madame Louchard, est-ce que vous avez des informations en conclusion que vous voulez nous transmettre, là, vous voulez dire, vous avez noté, qui serait intéressante de dire, là, ou est-ce qu'on a fait le tour ?
Non, peut-être pour finir sur une note positive aussi, c'est de peut-être vous lister les facteurs de satisfaction. Des dirigeants d'entreprise. La satisfaction de la clientèle pour eux est vraiment un facteur de satisfaction.
Ils sont contents de faire du bon boulot et quand les gens sont contents.
Oui, voilà.
Ça, je peux en entendre, ça.
C'est vraiment important pour eux. D'ailleurs, ils montent leur entreprise rendre service aux clients.
Pour faire les choses bien, généralement. Hein,
c'est ça. Donc, quand il y a un retour de clients satisfait, c'est quelque chose qui est important pour eux. Le bon climat social aussi. La bonne implication du personnel, voilà, le personnel engagé, investi.
Le chef d'équipe est content quand l'équipe se porte bien. C'est intéressant quand même.
Les bons résultats annuels, le recrutement aussi d'un salarié, puisque ça devient quand même assez compliqué sur le plan du recrutement. Et les temps avec les salariés aussi, ces temps-là, c'est des facteurs de satisfaction du dirigeant.
Ok. Madame Mouchard, comment on vous trouve, le soutien psy, là, comment est-ce qu'on y va, où est-ce qu'il est?
Alors, sur le site du SPST, vous avez mes coordonnées et le QR code pour faire l'évaluation. Ça va être la solution la plus simple pour retrouver mes coordonnées.
Bon, très bien. Carolina, à bientôt.
À très bientôt.
Avec un projet d'émission, tu nous as dit?
Oui, tout à fait, qui sort bientôt.
Tu as le nom déjà ou pas?
Boss Ladies.
Voilà, ça va parler d'entreprise, de femmes dans le monde du travail, ça va dépoter.
C'est ça.
Madame Louchard, merci beaucoup.
Merci à vous.
À tout le monde, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Au revoir.
RLP Business.
RLP.
Radio Libre en Périgord.